RCF. Bonjour chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Paroles Protestantes. Comme chaque premier dimanche du mois, nous parlons de la prière. Aujourd'hui, nous vous proposons un entretien sur le temps que Jésus passe à prier dans le jardin de Gethsémané, juste avant son arrestation. Nous verrons ensemble ce que ce jardin de Gethsémané nous apprend sur lui-même, pourquoi ce temps de prière de Jésus a été si intense, et nous verrons aussi la réaction des disciples. Nous sommes ensemble durant 30 minutes.
Parole protestante sur RCF Anjou.
C'est Jean-Pierre qui vous présente cette émission en compagnie de Jean-Didier Rousseau ainsi que de Daniel et Bernard de Lépine. Nous sommes tous quatre actifs à l'église protestante baptiste d'Angers dite Communauté du Colombier. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, qui nous lit le récit qui parle de ce moment au jardin de Gethsémané, Jean-Didier ?
Oui, eh bien, je vous lis dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26, ce sera plus simple et plus direct. Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané et dit aux disciples « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier ». Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi ». Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi ? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint une nouvelle fois et les trouva encore endormis car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et, s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Luc précise que Jésus était en proie à l'angoisse. Il priait plus instamment. Sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre et qu'un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Alors, il y a bien sûr d'autres événements dont nous parlerons peut-être plus tard.
Merci Jean-Didier. Daniel, pourriez-vous nous parler de ce jardin de Gethsémané ? D'ailleurs, comment faut-il le prononcer ? Gethsémané ou Gethsémané ?
Alors, comme c'est un mot qui vient de l'araméen, on ne sait pas exactement si c'est l'une ou l'autre prononciation. Les Bibles protestantes le traduisent Gethsémané, alors que les Bibles catholiques le prononcent Gethsémani. Mais c'est pas vraiment important. Tous s'accordent à dire que la traduction veut dire pressoir à huile. Alors, ce jardin est nommé jardin, mais à l'époque, il faisait plusieurs hectares. Il fallait sortir de Jérusalem, traverser le Cédron, qui était une petite rivière, et le jardin se situait en face, sur une colline. Bernard et moi, à chaque fois, nous y allons lors de nos visites en Israël. Aujourd'hui, il est morcelé, donc on va dans un enclos privé, plein d'oliviers plus que centenaires. Pour l'anecdote, nous prenons un temps pour méditer justement sur ce passage, avant de prendre un temps de prière, seul, en couple ou en famille. Et à chaque fois, c'est une réelle émotion. Et les larmes coulent sur les visages, bien souvent.
Mmh. Bernard, vous souhaitez compléter ?
Oui, c'est un lieu où Jésus devait se rendre assez souvent avec ses disciples lorsqu'il était à Jérusalem, probablement pour prier et puis pour enseigner. C'était vraiment un lieu de quiétude. En tout cas, Judas n'a pas de mal à le retrouver dans ce jardin. Ils allaient peut-être toujours au même endroit. En tout cas, je suis fasciné par les textes de la Bible. Daniel a évoqué tout à l'heure l'appellation Gethsémané, c'est-à-dire pressoir à huile, et ce n'est vraiment pas anodin.
Ah bon ? Ben alors dites-nous pourquoi.
Ah ben parce que c'est un mot prédestiné pour Jésus. À ce moment précis, avant le jugement et la crucifixion, Jésus a été écrasé, on l'a entendu, par la peur et l'angoisse. Écrasé un peu comme les olives sont écrasées dans un pressoir. Par ailleurs, il faut comprendre que l'usage de l'huile était important dans ce temps-là. Vous savez, en Israël, il y a trois différentes pressions pour les olives. La première, c'est une pression à froid. L'huile qui en sort est dite pure. Il y a une deuxième pression qui servait plus à la cuisine ou comme élément de beauté. On parle d'huile parfumée ou des fois pour soigner, comme le rapporte Jésus dans la parabole du bon samaritain. Et puis, il y a une troisième pression qui servait alors à un usage très commun, comme les lampes à huile, le graissage des outils et j'en passe.
D'accord. Et en quoi ce lieu est prédestiné alors ?
Ah ben, Jésus, il est de la première pression, c'est-à-dire pure. Cette huile servait à l'usage du temple et elle est dite huile sainte. Elle servait, par exemple, d'huile pour les lampes du chandelier, mais c'est aussi de l'huile qui servait à la consécration des prêtres ou des sacrificateurs, hein, c'est un peu la même chose, des rois et des prophètes. Et sur le plan symbolique, moi je trouve en tout cas que c'est très fort, car... Pensons au chandelier, Jésus dit lui-même qu'il est la lumière du monde. Et dans ce moment sombre de sa vie terrestre, ça a du sens. D'ailleurs, au passage, plus il fait sombre, plus la lumière se voit. Je disais aussi que l'huile servait pour l'onction, mais comment ne pas faire le rapprochement avec le mot Christ, qui veut dire oint, oint du Père, oint de l'Esprit. En même temps... Il est roi des rois, il est le grand prêtre et il est le prophète par excellence. Ah Jean-Pierre, je ne veux pas être trop long, hein, mais comment ne pas aussi voir au regard du Lévitique que l'huile servait aussi à la purification des lépreux quand on sait que la lèpre dans la Bible est synonyme de péché. Jean nous dit dans sa première épître... Jésus lui-même nous purifie de tout péché. Mais bon, Jean-Pierre, j'arrête là parce que je risque d'aller trop loin.
Merci Bernard. Jean-Didier, que se passe-t-il dans ce jardin ?
Eh bien, comme nous l'avons lu, Jésus arrive. Il dit à 8 de ses disciples de s'asseoir là, puis demande à Pierre, Jacques et Jean de venir avec lui. Bon, le 12e, hein, on le sait, Judas était en route pour la trahison. Pourquoi ces trois-là ? Parce que Jésus les a pris avec lui, eux seuls, à plusieurs reprises, comme lors de la transfiguration ou la résurrection de la fille de Jaïrus. Le récit est très humain, je cite, « Jésus commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Je ne veux pas jouer sur les mots, mais tout de même, ce mot « Jésus commença » veut dire que ce n'était que le début de son angoisse et que celle-ci est allée de plus en plus forte. Jésus a besoin d'épancher, de partager sa peur, son angoisse. Il fait des confidences à ses trois disciples. Je ne sais pas si les disciples réalisent, comprennent à ce moment-là l'état psychologique de Jésus. Moi, perso, j'ai l'impression qu'ils ont jamais vu Jésus dans un tel état et que pourtant, est-ce du fait de leur fatigue, je ne sais pas, ben ils passent complètement à côté de la demande de Jésus.
Donc vous êtes en train de nous dire qu'ils ont échoué à leur mission quelque part, non ?
Ben oui, c'est un peu ça. Jésus leur demande de le soutenir dans la prière durant ce temps particulièrement éprouvant pour lui. Et eux, au lieu de ça, ben ils dorment. Bon, Jésus vient une première fois pour bénéficier du soutien physique de ses trois disciples. On peut facilement se représenter la scène, d'ailleurs, et Marc nous la relate très simplement, voyant ses trois disciples endormis, il s'adresse à Pierre. « Hé, Simon, tu dors ? Tu n'as pas été capable de veiller une heure ?» Il y a une autre traduction qui dit « Tu n'as pas eu la force de rester éveillé même pendant une heure. »
Oui, et je me permets d'insister sur cette interpellation de Jésus. « Simon, n'as-tu pas pu prier une heure avec moi ?» On ne se rend pas compte que Jésus a prié durant une heure avant de revenir vers ses trois disciples. Il n'était pas juste en train de faire une petite prière, « Père, éloigne de moi cette coupe », qui ne prend même pas 30 secondes. Ce rapport n'est que le strict condensé de la prière de Jésus qui a duré une heure, voire plus. Pas étonnant que les disciples se soient endormis. Il y a un livre qui a pour titre « Ne pouvez-vous veiller une heure avec moi » de Larry Lee. C'est vraiment très intéressant et il nous questionne sur notre propre capacité de prier durant une heure.
Oui, vous avez raison de souligner, après avoir réveiller Simon et probablement aussi Jacques et Jean, hein, d'ailleurs, Jésus repart prier seul, et ça peut-être pendant une heure, hein, d'ailleurs. Hein. Et encore une fois, ben, il s'endorme, puisque Marc le relate encore, il revint encore et les trouva endormis, car leurs yeux étaient appesantis, ils ne savaient que lui répondre. Alors, je ne sais pas si Jésus est déçu. En tout cas, ben, y a un petit bout de phrase qui passe souvent inaperçu. Il ne savait que lui répondre. Ben, il aurait pu dire, désolé Jésus, là, on est fatigué, on ne sait pas quoi te dire, ni comment te soutenir. Et pourtant, il faut quand même se rappeler que Jésus avait choisi 12 disciples, justement, pour que ceux-ci le soutiennent, tout en étant en apprentissage avec lui. Hein. Ainsi, Marc dit, ben, Jésus avait choisi ses 12 disciples qu'il nomma apôtres et qu'il devait être constamment avec lui. Alors, on ne va pas leur jeter la pierre, hein, car ben, nous aussi, nous sommes parfois sollicités par des personnes qui demandent notre prière ou notre soutien. Et puis, il nous arrive de ne pas donner suite en se disant, ben, j'ai pas le temps, je suis trop fatigué, affairé à faire autre chose. Ou même on oublie, on pense que bon, finalement, c'était pas si important que ça. Ça nous arrive aussi à tous, hein, je crois, hein, de ne pas savoir quoi ou comment répondre à la détresse des autres. Hein, c'est pas toujours simple. Nous l'avons vu, un ange lui a été envoyé afin de le fortifier. Alors là, on peut dire qu'heureusement que l'Éternel, notre Dieu, a d'autres ressources que les ressources humaines. Hein, je crois que là, on peut le dire. Lorsque les personnes autour de nous ne réagissent pas, eh bien, le Seigneur est à nos côtés afin de pallier à leur manque, papier au nôtre aussi. Hein.
Merci Jean-Didier. Daniel, Jésus part seul pour prier. Avez-vous une idée du pourquoi ?
Alors oui, bien sûr, il laisse ses 3 disciples et va un peu plus loin. Il est dit à un jet de pierre. C'est Luc qui nous dit ça. Ce n'est pas très loin, un jet de pierre. Mais Jésus a besoin de solitude à ce moment-là. Ce n'était pas nouveau. Plusieurs fois, les évangiles nous disent qu'il priait seul le soir, tôt les matins et même parfois la nuit. Et dans nos émissions sur la prière, nous relevons souvent l'importance de la prière communautaire, avec d'autres donc, mais aussi en seul à seul avec le Seigneur. Et cette prière en seul à seul permet une intimité plus grande avec Dieu. On lui dit des choses que nous ne pouvons dire en public. Mais les deux modes de prière sont importants et se complètent. D'un côté, Jésus nous enseigne « Enferme-toi seul dans ta chambre pour prier » et en même temps, il enseigne le « Notre Père » qui suggère d'être à plusieurs. Pour revenir à Jésus, cette fois-ci, il est à un vrai tournant non seulement de sa vie terrestre, mais aussi de sa mission spirituelle. Il a besoin d'être seul avec son Père pour appréhender ce moment si important. Rappelons qu'il a accepté de laisser la gloire du ciel pour vivre sur cette terre et mourir sur une croix. Et il est maintenant face à un enjeu difficile, tant sur le plan spirituel qu'humain.
Merci Daniel. Avant de poursuivre sur cette prière de Jésus au jardin de Gethsémané, je vous propose d'écouter Nicolas Persinet, un membre de notre communauté, qui chante en session acoustique le titre « C'est pour la liberté que Christ nous a rendus libres ». Nous sommes heureux de vous faire découvrir cet auteur, compositeur, interprète. Restez avec nous, nous revenons dans quelques instants.
Ce que Dieu a fait pour toi, il donna son fils pour mourir sur une croix. Loin de son cœur, nous étions tous pécheurs. Dans son amour parfait, il est venu nous sauver. C'est pour la liberté que Christ nous a rendus libres. C'est pour la liberté que Christ nous a rendus libres. Hey! Si tu entends sa voix, ne lui résiste pas. Il veut t'annoncer des paroles de vérité. Si tu marches dans ses voies, rien ne t'arrêtera. aujourd'hui à jamais, tu vis dans la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a rendus. C'est pour la liberté que Christ nous a rendus.
Parole protestante sur RCF Anjou.
Suite de notre émission Parole protestante sur RCF Anjou, nous sommes toujours en compagnie de Daniel, Jean-Didier et de Bernard. Nous parlons de l'épisode de Jésus et de ses disciples au jardin de Gethsémané. Juste avant la pause, Daniel nous disait que Jésus était face à un enjeu difficile, tant sur le plan spirituel qu'humain. Et Bernard, pourriez-vous nous en dire un peu plus ?
Ben oui, l'enjeu qui se joue précisément à ce moment, dans le jardin des Oliviers, c'est le don de sa vie comme rançon ou à la place de la nôtre. C'est Jésus qui le dit, hein, le Fils de l'homme, Jésus donc, est venu pour servir et pour donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Vous savez, une rançon, c'est ce qui doit être payé en échange d'une libération d'une personne qui est prise en otage. Nous avons tous été pris en otage par le diable du fait de notre péché et Jésus, lui, il paye notre rançon en donnant sa vie en échange. C'est un peu comme s'il disait « Libère cette femme ou cet homme de la condamnation éternelle et je paye pour de ma vie pour que la personne puisse être libre. » L'enjeu, c'est bien notre libération, afin que nous puissions vivre l'éternité en présence de Dieu notre Père. L'apôtre Paul le dit aussi dans l'Épître aux Romains avec une simplicité tout à fait directe. Hein. Ils disent « Ce que l'on gagne avec le péché » ou une autre traduction dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Et quand il parle de la mort, ce n'est pas de la mort physique dont il parle, mais de la mort spirituelle. Du fait de nos péchés, nous sommes condamnés en principe à vivre loin de Dieu et ce, durant l'éternité. Mais parce qu'il y a un « mais », l'apôtre continue en disant « Mais avec Dieu, ce que l'on reçoit gratuitement, c'est la vie en Jésus-Christ pour être avec lui toujours en union. »
Si je vous suis dans votre raisonnement, l'enjeu de ce moment, c'est que Jésus offre sa vie en compensation de la nôtre. Jean-Didier, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur le don de sa vie ?
Mais Jésus a été vraiment très clair sur le sujet dès le début de l'évangile de Jean. Il dit « Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même ». Alors Jésus nous donne sa vie de manière libre. Il faut se retirer de nos têtes cette conception que ce sont les Juifs ou les Romains qui l'ont condamné à mort. Alors bon, certes, ils ont été des instruments, mais en réalité, Jésus est venu sur terre aussi pour donner sa vie. Vous vous souvenez peut-être que Pierre a coupé l'oreille de Malchus pour défendre Jésus des personnes qui venaient l'arrêter au jardin. Alors Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» quand on sait qu'une légion, c'est 6000 hommes, multiplié par 12, ça fait quand même un petit peu de monde. Hein. Alors Jésus dit que des anges pouvaient lui venir en aide à cet instant même, s'il le demandait au Père. Mais ce n'était pas le but. Je le redis, tant je pense que c'est important, Jésus a quitté volontairement la gloire du ciel pour marcher au milieu de l'humanité et précisément pour donner volontairement sa vie.
Oui, il y a un écho de ce que dit Jean Didier dans le livre aux Hébreux. L'auteur écrit « Au moment où il allait entrer dans le monde, le Christ dit à Dieu le Père, « Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Je viens moi-même à toi, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Comprenons que à cette époque, pour tout péché, il fallait qu'un animal soit sacrifié et qu'il meure à la place du pécheur. Ben d'ailleurs, souvenez-vous, au lendemain du baptême de Jésus, Jean le Baptiste, en le voyant, déclarait « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Ben Jésus a pris notre place, la vôtre, la mienne, celle des auditeurs. Réalisons que c'est nous qui aurions dû être un peu sur la croix.
En effet, Bernard. Daniel, Jésus fait cette prière « Éloigne de moi cette coupe ». Qu'est-ce que symbolise la coupe dont il parle ?
Dans le Premier Testament, il est question à chaque fois de la coupe de la colère de Dieu. Et Jésus devait boire la coupe de la colère de Dieu à notre place, à cause de nos péchés et de notre méchanceté. Et il savait ce que cela signifiait. Jésus, dans son humanité, craignait ce moment. Il aurait voulu ne pas devoir affronter cette épreuve. Et ça se comprend. Mais finalement, l'évangéliste Jean fait dire à Jésus « Que dirais-je ? Délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu. Toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. » Cet épisode à Gethsémani est le commencement de l'épreuve et des souffrances pour Jésus. Et elles ne sont pas anodines. Et il mène un combat intérieur et l'angoisse monte, la peur.
Il est précisé que des gouttes de sang tombaient à terre. Pourriez-vous nous expliquer ?
Oui, alors ce phénomène s'appelle hématidrose. Pour simplifier, c'est une affection dans laquelle les vaisseaux sanguins capillaires qui alimentent les glandes sudoripares se rompent et provoquent un suettement de sang. Et cela se produit dans des conditions de stress physique ou émotionnel extrême, une anxiété mentale sévère. Et cela nous parle de l'état de Jésus dans ce moment. Quelle souffrance intense il a vécue dans ce jardin. Stress, anxiété, peur extrême. Oui, il était pleinement homme et il a gagné ce combat pour nous.
Jean Didier, que pensez-vous de cette parole très forte ? Non ce que je veux, mais ce que ta volonté se fasse.
Alors je dirais un peu trivialement que ça ne m'étonne pas de Jésus. Tout au long de sa vie terrestre, Jésus a cherché à faire la volonté de son Père. Nous parlions tout à l'heure de Jésus qui prie seul le matin, le soir, la nuit. C'est qu'outre le fait d'être en intimité avec son Père, il cherchait aussi à recevoir ses instructions. L'évangéliste Jean rapporte d'ailleurs ces paroles. « Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. » Alors au passage, rappelez-vous que Jésus nous demande la même chose, « Recevez mes instructions ». D'autres traductions disent « Soyez à mon école ». Ce qui va de pair avec son enseignement qui dit « Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime et moi aussi je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. » C'est très profond. Être disciple de Jésus, c'est être à l'écoute de son enseignement et faire ce qu'il nous demande. À nous d'apprendre à l'écouter et pas seulement l'entendre.
Parole protestante sur RCF Anjou.
C'est la dernière partie de notre émission. Bernard, à votre avis, pourquoi Jésus s'y prend-il à trois fois pour une même prière ? C'est plutôt étonnant, non ? Est-ce que le Père ne lui a pas répondu de suite ?
Il y a quelques mois, j'entendais une personne donner une explication que je trouve très pertinente. Elle disait « Jésus est allé prier trois fois... « Père, éloigne de moi cette coupe », parce qu'il avait pris la décision de faire la volonté du Père, comme vient le dire Jean Didier, mais que les deux premières fois, ce n'était pas encore dans son cœur. Et cette personne continuait à dire, il faut choisir et choisir encore de vivre la volonté du Seigneur jusqu'à ce que nous ayons une attestation dans notre cœur et non pas seulement une attestation cérébrale. Cette attestation de cœur, Anne, par exemple, la mère du prophète Samuel, l'a aussi vécue. Elle avait beaucoup prié pour avoir un enfant parce qu'elle était stérile. Souvenez-vous, le sacrificateur Élie lui dit « Va en paix, que Dieu te donne ce que tu lui as demandé ». Et le récit nous rapporte qu'à partir de ce moment, le visage de Anne ne fut plus le même. Vous savez, vous avez peut-être vous-même expérimenté après une prière un espèce d'assentiment d'avoir été entendu avant même de voir l'exaucement. C'est comme si une évidence s'installait dans votre cœur et au fond de vous et vous dites, mais voilà, Dieu a entendu ma prière et il l'a exaucée. Jésus n'a pas expérimenté de suite cette évidence de boire la coupe de malédiction, comme l'a dit Daniel. Les deux premières fois, non, la troisième fois, oui. Et nous l'avons déjà évoqué, ce moment-là précis est un tournant de la destinée de Jésus dans sa mission. Il décide à ce moment-là qu'il ira jusqu'à la mort en croix pour le pardon de nos péchés et pour le rétablissement de notre relation avec le Père éternel. En clair, suite à cette troisième prière, c'est comme si Jésus dit en son cœur « Ok, j'y vais ». Je vais boire la coupe de malédiction, j'accepte d'être finalement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors si je personnalise un tout petit peu plus mon propos, c'est comme si là, dans ce jardin de Gethsémané, Jésus a dit à la troisième fois, « Ok Père, j'y vais pour que Bernard soit avec nous dans l'éternité ». Qui que vous soyez, et quelles que soient les origines, vos origines religieuses, chrétiennes, musulmanes, juives, bouddhistes, et j'en passe, chacun peut remplacer mon prénom par le vôtre. Jésus dit, par exemple, ok, Père, j'accepte cette mission ultime pour que Mohamed, Yoko, Francine, Isaac, Natalia, et j'en passe, soient avec nous durant l'éternité entière. Franchement, moi, ça me bluffe. À partir de là, rien n'arrêtera plus Jésus jusqu'à son sacrifice ultime. Sa décision s'est prise là, dans le jardin qui s'appelle le pressoir à huile. Moi, je trouve ça tellement émouvant, tellement fort.
Vu sous cet angle, Bernard, on ne peut qu'être interpellé par la décision de Jésus prise dans ce jardin. Permettez-moi d'ajouter que l'amour de Jésus pour Dieu son Père, d'une part, et pour nous, d'autre part, devait être énorme. On ne prend pas une décision aussi radicale que celle d'accepter de mourir sur une croix comme un vulgaire assassin, sans être envahi d'un amour puissant. Être aimé de la sorte par Jésus, c'est vraiment extraordinaire. Alors pour conclure, je vous propose, Daniel, vouliez-vous faire une prière, pardon?
Oui, alors je terminerai par une adaptation du psaume 22 qui reflète la souffrance du Christ et de ce qui pouvait être sa prière, et pourquoi pas la vôtre, en quelques circonstances que vous pouvez traverser. Éternel, ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Protège mon âme contre l'épée, délivre-moi de la gueule du lion, préserve-moi des cornes des taureaux. Oui, tu m'as répondu. Alors je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es et je te louerai dans la grande assemblée.
Je ne pensais pas que nous puissions tenir toute une émission sur cette prière de Jésus au jardin de Gethsémané et je vois qu'il y aura encore bien des choses à dire. Merci à vous trois. Et si je devais retenir deux idées fortes de nos échanges, ce serait que malgré son stress et son angoisse, c'est donc ce jardin que Jésus prend la décision finale de faire la volonté de son Père. Et que c'est par amour pour nous qu'il s'est offert volontairement en rançon à notre place. Retrouvez notre émission podcast sur RCF Anjou. Bonne prière et à bientôt.